Et nous sommes surtout mardi. Bonjour Margot Delpierre.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. La Cour européenne des droits de l'homme doit prononcer 3 décisions très attendues en matière de justice climatique aujourd'hui. Dossier à suivre.
L'Espagne veut mettre fin aux visas dorés, ceux accordés aux ressortissants étrangers qui investissent dans l'immobilier du pays. Explication de notre correspondant à Madrid.
Une plainte pour incitation à la haine déposée hier par la maire de Besançon. Des pancartes ont été brandies dimanche au carnaval, assimilant les étrangers à des violeurs. Il s'agirait du collectif Némésis qui se cache derrière. Nous ferons le point.
Jean-Luc Mélenchon pèse-t-il toujours 22% à 2 mois des européennes dans les sondages? La liste social-démocrate conduite par Raphaël Glucksmann devance la liste insoumise. Jean Lemarié en parle dans son billet politique à 8h15.
L'affaire est exceptionnelle par son ampleur. La Cour européenne des droits de l'homme doit rendre ce matin sa décision dans 3 affaires climatiques. La première, 6 jeunes Portugais qui ont assigné 32 pays devant la CEDH pour inaction climatique. Une autre vient de France à l'initiative de l'eurodéputé et ancien maire de Grande-Synthe, Damien Carême. Et la troisième, de Suisse, menée par l'Association helvétique pour le climat. Dans le cas le plus emblématique, celui des jeunes Portugais, les plaignants assurent que l'inaction climatique des États constitue une violation notamment du droit à la vie, inscrit dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Véronique Rebérot.
L'origine de la plainte remonte à 2017, quand le Portugal est touché par 2 violents incendies. Ces méga-feux feront 120 victimes et auront des effets durables sur la santé, allergies, troubles du sommeil, anxiété pour Fear, 19 ans aujourd'hui. Elle a porté plainte devant la Cour européenne.
La crise climatique et le fait que les gouvernements ne parviennent pas à protéger notre avenir me rend très anxieuse. À Lisbonne, la semaine dernière, il y a eu une petite tornade, ce qui n'était jamais arrivé à Lisbonne avant. C'est ce qui m'angoisse le plus, les tornades, les typhons, les vagues de chaleur.
Katharina, 23 ans, dit avoir souffert de troubles respiratoires liés aux fumées. Elle se dit nerveuse à l'idée de voir aboutir une affaire dans laquelle tous ont énormément investi.
Je crois que nous avons déjà réalisé une grande partie de ce qui était personnellement mon principal objectif, que 32 gouvernements expliquent leur politique climatique devant la Cour européenne des droits de l'homme. La réalité, c'est qu'ils n'ont aucune défense. Nous savons que le réchauffement climatique pourrait atteindre près de 4 degrés au cours de notre vie. C'est un futur terrifiant, d'autant que nous assistons déjà à des impacts extrêmes au Portugal, seulement à 1 degré de plus. Les gouvernements européens ont le pouvoir de faire bien plus pour réduire leurs émissions. Et j'espère désespérément que la Cour leur ordonnera de le faire.
Les 6 jeunes plaignants portugais ont un espoir que la CEDH incite les États à agir en conséquence pour contenir le réchauffement à 1,5 degré d'ici 2100, comme ils s'y sont engagés dans l'accord de Paris.
En quoi ces affaires s'inscrivent-elles dans un mouvement d'essor du contentieux climatique à travers le monde? Explication de Vincent Brenneau, avocat associé au cabinet Auguste Debouzy, spécialisé en droit public et droit de l'environnement.
Il y a un essor à la fois sur le plan national. On se souvient en France qu'on a eu une décision du Conseil constitutionnel au mois de novembre dernier. C'est la première fois que le Conseil constitutionnel a pris en compte dans une décision le droit des générations futures à la demande de plaignants, qui étaient d'ailleurs de jeunes plaignants, comme dans cette affaire des jeunes portugais. Et puis il y a un mouvement international qu'on a pu constater l'été dernier avec des jeunes américains qui avaient porté un contentieux en matière de justice climatique dans l'Oregon, et également la Cour constitutionnelle de Karlsruhe et un certain nombre de cours constitutionnelles en Amérique du Sud qui commencent à porter ce sujet climatique devant les tribunaux, enfin des jeunes les portent devant les tribunaux, ça fait l'objet de jugement. Souvent, on rattache une obligation de préserver le droit à la vie, le droit à la vie privée. Enfin, on prend des droits de l'homme et on attrait l'environnement sur ces sujets parce que l'environnement en tant que tel n'est pas un sujet de droit et donc on le rattache à des droits de l'homme.
La Cour va rendre une décision dans 3 affaires. Ça peut déboucher sur quoi cette décision?
Ce sont avant tout des décisions de portée symbolique. C'est-à-dire que quand un État est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, elle est invitée à modifier sa législation, son mode de fonctionnement pour se conformer à la décision qui aura été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça donnera un fondement à d'éventuelles autres actions de plaignants devant les juridictions nationales en considérant que la Cour a déjà posé un principe sur lequel elles pourront s'appuyer. Il n'y a pas de mesure coercitive. La Cour européenne des droits de l'homme, elle vient sanctionner un principe, elle vient donner une ligne directrice, elle vient inviter les États à se conformer.
L'avocat Vincent Brenneau, dossier signé Véronique Rebérotte, alors qu'on apprend ce matin que mars 2024 a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré dans le monde et que la température des océans a aussi battu un nouveau record, record qui se succède depuis des mois selon l'observatoire européen Copernicus. Bientôt la fin des visas dorés en Espagne. Le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, l'a annoncé hier. Le Conseil des ministres doit étudier aujourd'hui un rapport visant à modifier la loi. Elle permet jusqu'à présent à ceux qui investissent au moins 500 000 euros dans l'immobilier en Espagne d'obtenir un visa de résidence et de travail, Marie-Hélène Ballestero.
Cela fait des mois que le sujet est sur la table de l'exécutif espagnol. Cette fois, le chef du gouvernement a franchi le pas. Nous allons supprimer l'octroi du visa doré et nous allons prendre les mesures nécessaires pour garantir que le logement soit un droit et non une simple opération spéculative, a affirmé hier Pedro Sanchez, qui veut en finir avec la spéculation immobilière dont souffrent beaucoup de jeunes et de familles. Rappelons que les visas dorés ont été introduits en Espagne en 2013 par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, qui souhaitait relancer les investissements étrangers alors que le pays était plongé dans une profonde crise financière et immobilière. Concrètement, les visas dorés permettent aux ressortissants non européens d'obtenir un permis de résidence et de travail, mais en contrepartie, ils doivent investir au moins 500 000 euros dans une entreprise ou un bien immobilier en Espagne. Selon les derniers chiffres officiels qui datent de fin 2022, près de 11 500 visas dorés ont été accordés ces 10 dernières années et comme l'a souligné hier Sanchez, 94% d'entre eux sont liés à l'investissement immobilier et non à un investissement dans une entreprise et la plupart sont concentrés dans les grandes villes comme Barcelone, Madrid, Malaga, Alicante, Valence ou Palma de Majorque. Des villes qui sont confrontées par ailleurs à un marché du logement très tendu où il est très difficile de trouver un logement décent pour ceux qui y vivent, y travaillent et paient leurs impôts tous les jours, a souligné Sanchez qui a déclaré qu'il ne souhaite pas ce modèle de pays pour l'Espagne.
Les Irlandais ont un nouveau Premier ministre. Il y a presque trois semaines, Leo Varadkar démissionnait à la surprise générale, estimant ne plus être la meilleure personne pour assumer ses fonctions. C'est donc Simon Harris, ancien ministre de l'enseignement supérieur, qui lui succède. En Irlande, Clémence Pénard.
On le surnomme déjà le TikTok Taoiseach. Simon Harris, c'est en effet aujourd'hui officiellement Taoiseach. C'est comme ça qu'on appelle le Premier ministre en Irlande. Et il est très actif à la fois sur Instagram et sur TikTok, où ses vidéos atteignent près de 2 millions de vues. Gail McElroy est professeur en sciences politiques à l'université Trinity à Dublin.
Il est indéniablement jeune et peut-être le membre du Parlement qui maîtrise le mieux les réseaux sociaux, en tout cas définitivement de son propre parti. Mais ça ne veut pas dire qu'il représente vraiment les millennials ou la génération Z. Il est plus conservateur, plus traditionnel et à bien des égards, c'est plutôt un politicien de la vieille école.
Fils d'un chauffeur de taxi et d'une assistante scolaire, Simon Harris se consacre très jeune à la politique et va rapidement gravir les échelons. Élu local à 22 ans, député à 24 ans, à l'époque on l'appelle le bébé du Parlement, et aujourd'hui à 37 ans, Premier ministre. Leo Varadkar avait 38 ans lors de sa première nomination en 2017. Simon Harris devient donc le plus jeune Taoiseach que l'Irlande ait jamais connu. Et parmi les défis qu'il devra relever, la terrible crise du logement. Simon Harris s'est engagé à la résoudre une fois pour toutes. Objectif annoncé lors de son premier discours en tant que nouveau leader du Fine Gael, le parti de centre-droit, construire 250 000 logements au cours des 5 prochaines années.
Clémence Pénard. Le Hamas dit étudier un projet de trêve de plusieurs semaines, tandis que de son côté, le gouvernement israélien a annoncé qu'une date avait été fixée pour une offensive sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Les États-Unis sont opposés à une telle opération, annonce faite après 6 mois de guerre entre Israël et le Hamas palestinien.
France Culture, il est 8h09, la suite du journal Margot Delpierre. Le parquet de Besançon a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale.
Oui, dimanche, pendant le carnaval de la ville, deux jeunes femmes ont brandi des pancartes associant migrants et violeurs. Et selon les premiers éléments, Léa Giraudeau, il s'agirait d'une action du collectif d'extrême droite Némésis.
Un collectif connu depuis plusieurs années, mais implanté que très récemment à Besançon. Au mois d'octobre, les affiches pour recruter les premiers membres et au mois de novembre, première action à l'université de Franche-Comté avec la découverte d'autocollants et de tags xénophobes et racistes à l'intérieur de la bibliothèque. Mais ce week-end, un palier est franchi, une banderole et deux pancartes sont brandies en plein carnaval sous les confettis et devant la mère Anne Vigneault.
Quand la première fois nous avons vu émerger ces deux pancartes, nous avons été en train de nous dire, est-ce qu'on a bien vu ?
Violeurs étrangers dehors et libérez-nous de l'immigration. Pour l'élu byzantine, on a l'impression de revenir 100 ans en arrière.
Nous avons finalement des signaux qui sont très clairement les mêmes que ceux pendant les années 30. Les personnes qui commettent ce genre d'actes se sont de plus en plus décomplexées. Il fut un temps où elles le faisaient le soir, la nuit, cagoulées ou pas cagoulées. Aujourd'hui, de plus en plus, ils le font à visage découvert, ce qui est un signal extrêmement grave.
Quant à la question de faire de la pub à ce collectif, Anne Vigneault est très claire. Elles ont fait ça devant des milliers de personnes. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé.
Léa Giraudot de France Bleu Besançon. Némésis, c'est un collectif créé il y a presque 5 ans à Paris par des jeunes femmes de sensibilité nationaliste et identitaire pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes dont elles sont victimes. Des violences qu'elles imputent aux hommes d'origine étrangère ou de confession musulmane. Magali Della Suda, chargée de recherche en sciences politiques au CNRS, au centre Émile Durkheim de Bordeaux, a étudié ce collectif. Écoutez.
Némésis est lancée dans la bataille culturelle des droites, et en ce sens elles réussissent parce que elles arrivent désormais à faire en sorte que dans le débat public, quand on parle de violences sexuelles et sexistes, eh bien désormais bon nombre de journalistes, d'éditorialistes, de personnalités publiques font le lien entre violences faites aux femmes et immigration. Voilà, ça fait partie des fruits de cette bataille culturelle qui est livrée de manière très intense depuis la Manif pour tous. En gros, c'est 2013, les grands cortèges contre la loi Taubira, contre les politiques d'égalité de genre, qui vont faire germer l'idée, consolider l'idée d'une union des droites contre un certain nombre de politiques publiques d'égalité entre les sexes ou d'égalité de genre, en faisant un lien entre l'insécurité, les violences faites aux femmes et l'immigration. L'islam comme vecteur d'un patriarcat d'importation, comme vecteur de violences sexuelles et sexistes. Et donc, on a des actions spectaculaires, une communication très efficace avec des relais importants dans le champ journalistique tel qu'il s'est reconstitué autour de l'entreprise politique de Vincent Bolloré et d'autres. Et ça compense, de fait, leur très faible nombre de militantes, puisqu'elles sont présentes dans quelques grandes villes de France, mais ça reste un militantisme très limité dans ses capacités d'action réelles.
Magali Della Suda, chargée de recherche en sciences politiques au CNRS, des propos recueillis par Mathieu Laurent. C'était l'un des réalisateurs français les plus en vogue dans les années 2000-2010, Philippe Lioret, à qui l'on doit entre autres « Je vais bien, ne t'en fais pas » ou « Welcome » est aujourd'hui mis en cause par 10 actrices. Les comédiennes dénoncent des baisers forcés, des gestes déplacés. Une enquête de la cellule investigation de Radio France à lire sur notre site radiofrance.fr. Des prolongations aujourd'hui entre syndicats et patronats après une longue journée de négociations hier sur l'emploi des seniors. Les syndicats veulent obtenir des contreparties pour les salariés au relèvement de l'âge de départ en retraite à 64 ans. Le patronat a soumis la semaine dernière aux organisations syndicales un projet d'accord qui a servi de base aux négociations hier, mais le texte reste très éloigné des revendications syndicales. Les discussions doivent donc reprendre au MEDEF. À Bercy, cette fois, au ministère de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire réunira ce matin le Haut Conseil aux finances locales. Le but, discuter avec les principales associations d'élus locaux d'une éventuelle contribution des collectivités territoriales à la diminution de la dette publique. Il faut trouver 10 milliards d'euros d'économies cette année, 20 milliards l'an prochain, a fait savoir le gouvernement. Selon la Cour des comptes, c'est même 50 milliards qu'il faudra économiser d'ici 2027. Aussi, l'exécutif explore toutes les pistes possibles, y compris celles qui conduiraient à rogner le budget des collectivités. Mais ces dernières ne voient pas d'un très bon œil cette initiative, Stéphane Robert.
La réunion s'annonce tendue. Elle rassemblera tout à l'heure à 10h les représentants des 3 grandes associations d'élus locaux, associations des maires, des départements et des régions de France, accompagnées du président du comité des finances locales, André Laignel. En face, quatre ministres, celui de l'économie, Bruno Le Maire, son ministre du budget, Thomas Cazenave, celui de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, et la ministre des collectivités, Dominique Faure. Et puis seront également présents le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, ainsi que les principaux responsables des finances publiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. De quoi vont-ils discuter ? On ne sait pas vraiment, indique un représentant des collectivités. Ça ne nous a pas été précisé. Ceci dit, on a bien une petite idée. Le gouvernement a besoin d'argent et il se dit qu'il pourrait peut-être puiser dans le budget des régions, des communes et des départements. Mais si c'est ça, ça ne va pas bien se passer, indique un autre participant représentant des collectivités. Car on a déjà du mal à boucler nos budgets et nous ne sommes pas responsables de la dette créée par l'État. En face, les ministres feront valoir qu'il n'y a pas de raison, que tout le monde doit faire un effort, explique un conseiller de l'exécutif. On ne peut pas demander à l'État seul de faire des économies, reprend un autre. Et il y a des moyens de pression. N'oublions pas que l'État, poursuit ce conseiller, est le premier partenaire de tous les investissements réalisés dans les communes.
Stéphane Robert, Météo France place en vigilance orange vague submersion le littoral du Pas-de-Calais au Finistère et puis 5 départements de l'Eure aux Pyrénées-Atlantiques en orange aussi pour crue. Les températures de 11 degrés à Lille jusqu'à 18 à Marseille cet après-midi.